Ce Noël, venez découvrir l'histoire du premier Noël d'un point de vue totalement nouveau.
Bonjour à tous. Au nom du staff épisode et de toute l'équipe des moniteurs, nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre le dimanche 20 décembre à l'occasion d'un culte spécial.
À l'approche des fêtes de Noël, nous avons choisi de laisser leur place aux familles afin que chacun puisse être acteur et de vivre des moments spéciaux, des moments avec plein de surprises.
Covid oblige, il sera possible d'assister au culte depuis la plateforme YouTube et sur le site épisode à la maison. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, il sera possible d'assister au culte en présentiel en respectant les gestes barrières. Mais ne vous inquiétez pas, pour les familles qui préfèrent lire le culte à la maison, vous ne raterez rien.
Alors nous sommes très heureux de vivre ces moments ensemble, que nous soyons parents, enfants, grands-parents, jeunes, moins jeunes. Ces moments vont être magnifiques car ils seront connectés à notre plus beau cadeau de Noël, la venue de Jésus-Christ.
Waouh, excellent, excellent. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que je peux entendre des clapements de mains très très fort, très très fort? Et est-ce qu'on peut dire bonjour à tous nos internautes? Ça fait plaisir d'être là ce matin. Ça va Xavier? À fond, il est là, super. C'est une telle joie d'être avec vous ce matin. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de vivre un moment extraordinaire. Alors, déjà, alors qu'on est tous réunis, est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche et droite? T'as pas le droit de lui parler, t'as pas le droit de lui serrer la main, mais est-ce que tu peux au moins lui dire bonjour? Et vous qui êtes à la maison, alors que vous êtes à votre gauche, à votre droite, là vous avez le droit de serrer la main parce que vous êtes à la maison. En tout cas, on est content d'être ensemble. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut dire bonjour à tous les internautes qui nous regardent? Pour cela, il suffit encore d'applaudir bien bien fort et dire on est content d'être avec vous ce matin. Ça nous fait plaisir. Comme vous l'avez vu ce matin, c'est un culte de famille. On a la joie d'accueillir les petits et les grands. Mais j'aimerais tout de suite vous dire qu'un culte de famille, c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et que dans ce qu'on va vivre ce matin, on va passer un moment où Dieu va nous parler à chacun d'entre nous, petits et grands. Et je crois qu'on a quelque chose à vivre. Est-ce que tu crois que ce matin, ça peut être un rendez-vous pour toi? Amen. Et si tu vas avoir un rendez-vous avec Dieu, c'est ce matin, t'as bien fait d'être là. Tous les internautes qui sont derrière leur écran, on est heureux d'être avec vous. Et je sais pas pour vous, mais moi, quand je commence le moment, j'aime bien prier. Prier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je dis à Dieu, j'ai besoin de toi pour que tu viennes me parler. J'ai besoin de toi pour que tu puisses bénir cette matinée. J'ai besoin de toi et en retour, je veux t'apporter toute ma louange et mon adoration. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Est-ce qu'on peut prier et remettre cette matinée? Et les enfants, vous avez le droit de nous rejoindre dans la prière. C'est très simple, on dit merci à Jésus. Jésus, merci pour ta présence ce matin. Nous croyons que tu es déjà présent, que tu as prévu ce moment pour que chacun d'entre nous, petits et grands, nous puissions vivre un moment extraordinaire. Ce culte, il est pour toi. Et on a vraiment des choses à apprendre extraordinaires. Merci de nous avoir donné des enseignements. Merci de nous avoir parlé. Merci parce que la Bible nous dit des choses extraordinaires et on veut les comprendre ce matin. Alors je te prie de conduire tous ces moments. Je te prie de nous diriger du début jusqu'à la fin. Tu bénis Xavier avec l'équipe Louange. Tu bénis Betty avec les familles. Tu bénis le temps du message. Et que tous ensemble, on puisse vivre quelque chose juste d'extraordinaire ce matin. Merci parce que, encore ce matin, tu vas nous apporter un autre regard sur Noël. Et c'est toi qui vas nous éclairer. Merci Jésus. Amen. Amen. Xavier, je te laisse toute la place.
Merci. Bonjour à tous. C'est une réelle joie pour moi d'être avec vous ce matin. Alors ici, pour ceux qui nous regardent, il y a une centaine de personnes dans une salle, donc je parle pas juste à une caméra. Donc bonjour à tous. Vous avez fait un super effort d'être là, vous êtes tous masqués, mais ça va le faire. Et vous qui êtes à distance derrière votre écran, dans votre canapé, sur votre chaise, dans la cuisine, peu importe, soyez les bienvenus ce matin. Et merci PS pour ce démarrage, c'est génial. Avec l'école du dimanche, toute cette année, c'était un petit peu compliqué à gérer, mais on l'a fait. Et on a vécu des temps aussi forts avec les enfants, avec les familles, à distance. Mais le Seigneur bénit. Alors ce matin, accrochez-vous. Ça va être un culte un petit peu particulier. Alors, ce culte s'inscrit dans une série de 4 cultes. Pour ceux qui ont déjà suivi les cultes au préalable, vous pouvez les revoir sur Internet, il n'y a pas de souci, sur la chaîne YouTube. Le thème de ces 4 cultes, c'est un autre regard sur Noël. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie de... Est-ce que vous le savez? Est-ce que je peux entendre? Sur la vie de... Voilà. Alors les internautes, je ne vous ai pas entendu, mais dans la salle, je vous ai entendu Joseph. Alors si vous avez regardé la vidéo juste avant, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, Joseph. La vie de Joseph. Dans cette période très particulière, nous avons préparé avec les familles de l'épisode, l'épisode c'est le nom de l'école de dimanche, différents temps riches, variés, grâce à de nombreux talents. Vous le verrez tout à l'heure. Il y a même une intervention qui m'a fait pleurer quand j'ai vu le talent qui se cache derrière cette intervention. Je ne vous en dis pas plus. Et nous allons les découvrir durant tout ce temps qui arrive. Mon désir pour ce culte, et le désir du staff, comme on dit, mon désir, c'est de nous encourager tous à lire la Bible en famille. Lire la Bible en famille, et pas seulement la lire, mais d'en tirer d'incroyables richesses ensemble. C'est mon objectif pour ce matin, et même pour les jours qui viennent, parce que vous aurez l'occasion de revoir cette vidéo si vous le souhaitez. Nous souhaitons vous offrir un cadeau, un super cadeau. Vivre un culte famille maintenant. Et tous ensemble. Vous êtes prêts? Ah, vous pouvez le dire chez vous, hein? Ouais. Alors, on va commencer avec un temps de louange. Le titre de ce morceau, c'est « Bienvenue ». Donc, on va se souhaiter la bienvenue à chacun. Et on va souhaiter la bienvenue à notre Dieu, tous ensemble. C'est le titre du premier morceau. Merci à Eric. Alors, je ne sais pas si sur la caméra, on peut voir Eric. Voilà, Eric Coldet, qui a composé ce chant avec Adèle Anne, que vous ne verrez pas, puisqu'elle est à la technique derrière. Adèle, bravo. Merci pour le son, le réglage, c'est génial. Ils ont composé ce chant, et moi, ce chant, il m'a tellement interpellé que je me suis dit, on le prend, ce chant, et on va le mettre en number one. Alors, leur composition, on va la découvrir, bien sûr, et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse maintenant ne pas se mettre en mode « je suis sur mon canapé et je regarde la télé et puis j'écoute et je regarde, ouais, c'est bien ce qu'ils font, c'est génial ». Non, pas seulement. Je vais vous demander de vous lever, donc vous qui êtes dans la salle, là, vous allez vous lever, vous gardez le masque. Et vous qui êtes chez vous, au chaud, je vous invite, si vous voulez bien, aussi participer avec nous, vous vous levez. Pourquoi on se lève pour ce chant? Vous allez le voir. Ce chant, moi, il me donne envie de danser. Alors, on va danser, si vous voulez, hein, et on va chanter ensemble. Go, bienvenue.
Avec des cantiques, chantons ses louanges. À ses pieds, déposons nos fardeaux, il nous donne sa paix. Tous en cœur, approchons-nous de son trône, avec repentance. Considérons l'amour de Dieu, grand et glorieux. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. seuls, nous sommes venus pour te louer et rassembler nous te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu parmi
durée des temps, nous t'avons.
t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange éternel. Tu as fait les cieux.
Ce matin, nous allons continuer de bénir notre Dieu, Jésus-Christ qui est venu avec son papa Joseph, son papa d'adoption quelque part. On va prendre encore ce cœur qui dit « Christ est roi ». On le verra dans les interventions de tout à l'heure. On parle de ce Christ roi qui a impliqué beaucoup de choses, qui a apporté beaucoup de choses. Et ce Christ, on peut aussi l'accueillir dans notre vie. Et on l'a fait, nous tous, chrétiens, présents ce matin. Et on veut, et je veux bénir ce Christ, bénir notre Dieu, Jésus-Christ, ensemble. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité.
Disons-le ce matin, Christ est roi.
Christ est roi. Christ est roi.
Son nom dans leur cœur, dans l'épreuve ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Le hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois.
Fils des rois. Je vous invite à vous asseoir. Dans une commune, Sainte-Marie-aux-Mines, on a une famille qui nous a préparé des vidéos pour l'école du dimanche. Chaque semaine, ils nous préparent une vidéo qu'on met à disposition des familles pour qu'ils puissent vivre un temps particulier avec une activité, un chant, une lecture d'un texte biblique adapté et puis un temps de prière. J'aimerais les remercier. Un gros bisou à Abby et Noah. Donc c'est les deux enfants que vous allez voir maintenant parce qu'ils nous ont préparé une chanson, un chant de Noël. Et puis on vous a mis les paroles pour que ensemble, petits et grands, on puisse chanter ce chœur avec eux.
Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent, la terre et la terre et le règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et la terre et le ciel chantent.
Lire la Bible en famille, c'est passionnant, mais pas forcément facile à mettre en œuvre. On est tous pris par nos activités. On a des emplois du temps différents, des âges et des centres d'intérêt différents. Et c'est pas toujours si facile de comprendre ces textes difficiles. Et enfin, comment interpréter la Bible ensemble ? Parce que la Bible est un livre spécial. La Bible nous raconte qui est Dieu. Dieu se révèle dans la Bible. La Bible concerne la vie des enfants comme des adultes. Parce que Dieu nous rejoint dans nos interrogations et dans notre vécu. D'où l'importance de donner aux enfants la possibilité de goûter eux-mêmes au texte biblique. Je le répète, la Bible est un livre qui nous raconte qui est Dieu. Lorsque nous étudions la Bible avec nos enfants, posons-nous la question, mais qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ce passage ? Alors, en fait, c'est un livre qui a été écrit à travers plein de périodes différentes historiques avec des gens qui ont été très différents et qui ont été inspirés par Dieu. Juste pour vous situer l'histoire de ce matin. La Bible, c'est un livre écrit en 6 actes. Acte 1, le récit des origines. Acte 2, la chute et l'entrée du péché dans le monde. Acte 3, l'histoire d'Israël, de ce peuple-là. Acte 4, l'histoire de Jésus. Acte 5, l'histoire de l'Église. Et acte 6, la nouvelle création. Le récit de ce matin se situe dans un basculement entre l'acte 3 et l'acte 4. Le peuple d'Israël a tout l'Ancien Testament, l'a bien compris, mais il y a certains passages dans l'Ancien Testament qui sont bizarres et dont ils ne comprennent pas l'essence. Et ils attendent la venue du Messie, mais pas toujours de la façon dont il est venu. Et donc le récit qu'on va découvrir aujourd'hui est vraiment un basculement, un chamboulement des mentalités. C'est une période difficile où les gens ont vécu des bouleversements fondamentaux. Ça nous rappelle une période aussi. Ce matin, nous allons vivre une démarche pour apprendre à lire, aimer et comprendre la Bible en famille. Pour cela, je vous propose de découper cette démarche en trois parties. La première partie, c'est la lecture. Lire la Bible, je vous encourage à le faire en famille. Deuxième étape, reformuler le texte pour le comprendre. On verra ça plus tard. Et troisième partie, pour terminer, questionner ce texte pour en comprendre le sens et le message spirituel. Alors, pour la première partie, donc c'est la lecture. Nous avons sollicité les familles de l'épisode. Alors, on ne peut pas se voir en présentiel, donc on a un groupe WhatsApp et en distanciel, on leur a proposé de se filmer à la maison en train de lire ce texte. Peu importe le style qui nous correspond, lire, raconter, théâtraliser, l'essentiel, c'est d'y aller. Est-ce que vous voulez voir les familles en pleine lecture? Allez, on regarde la vidéo.
Le récit de la naissance de Jésus.
Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph.
Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit:
Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela arriva pour que s'accomplissent ces paroles du Seigneur transmises par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus.
Après le départ des mages, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit:
Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte.
Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer.
Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode.
Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte.
Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient donné les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus.
Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et il lui dit:
lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël. Car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts.
Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël.
Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes. On l'appellera Nazaréen.
Bravo à ces familles. J'aimerais vraiment remercier les enfants, leurs parents et même grand-maman pour cette belle lecture. Bravo. La deuxième étape pour comprendre la Bible, c'est de reformuler le texte. J'aimerais vous expliquer combien le fait de redire, de redire un texte avec ses propres mots est essentiel, et pas seulement pour les enfants. Savoir reformuler le texte, c'est savoir se faire le film de l'histoire dans sa tête. C'est quelque chose qui prend du temps, et en famille, les familles qui l'ont fait sont revenues au texte régulièrement. Alors au début, quand on est petit, déjà vers 4, 5, 6 ans, on peut reformuler juste un élément du texte, on s'en souvient. Puis, un peu plus tard, on arrive à reformuler les événements qui s'enchaînent. Ça s'appelle les enchaînements chronologiques. Puis, on peut encore continuer et apprendre à cerner un personnage. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Et on avance dans le texte. Et ensuite, on peut comprendre les enchaînements logiques. Il s'est passé telle chose, il a pensé telle chose, il a fait telle chose, ça a eu telles conséquences, les enchaînements logiques. Je vous propose d'écouter une reformulation qui a été faite par la famille Koshig avec deux enfants, Zach qui a 6 ans et Meira qui a 7 ans. Écoutez cette belle reformulation. On y va.
Pour reformuler un petit peu cette histoire, on comprend que Joseph, c'est un homme bon et droit tout au long de l'histoire. Au tout début, il a effectivement eu très peur. Il a eu peur de quoi, les enfants ?
En fait, il a eu peur parce que Marie, ils avaient prévu de se marier. Mais il a eu peur parce que Marie, elle avait un bébé dans le ventre. Et il y a un ange qui l'a rassuré parce qu'en fait, il lui a dit que ce bébé, il venait du Saint-Esprit. Alors ça a beaucoup rassuré Joseph.
Oui, c'est ça.
Il avait peur. Et lui, il avait pris la décision de se séparer de Marie pour que la honte ne soit pas sur elle. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que Marie soit dans une mauvaise situation, qu'elle soit mal vue des autres. Donc il a pensé aussi à Marie. C'est pour ça que c'est un homme qui est bon.
Oui,
c'est ça. Mais effectivement, quand l'ange est apparu et lui a dit « Mais ce bébé vient du Saint-Esprit !» C'est Jésus. Et là, effectivement, Joseph a été complètement rassuré.
Il a pris confiance.
Il a pris confiance.
Et en plus, il a accepté de jouer le rôle de papa. Il a accepté de prendre en charge Jésus et Marie. Il s'est pas enfui.
C'est une sacrée responsabilité en plus. Parce que c'est pas n'importe quel bébé. Être le papa de Jésus, c'est pas n'importe quoi quand même.
Oh oui.
Jésus, c'est un...
roi.
Roi.
Et on remarque au fur et à mesure de l'histoire qu'effectivement, qu'un autre roi va entendre qu'il y a la naissance d'un roi, Jésus.
Alors, ça va ce roi, il s'appelle Hérode. Et il voudra tuer Jésus.
Bah oui, parce qu'il est jaloux.
Il est jaloux
de Jésus.
Parce qu'il va être roi.
C'est
et
ça.
Hérode, il veut pas qu'il prenne la place.
Bah oui.
Il veut pas que Jésus prenne la place de lui.
Tout à fait.
Et comment ils ont fait alors pour échapper à Hérode?
Ils se sont enfuis en Égypte.
Mais comment ils ont su qu'ils devaient s'enfuir en Égypte?
C'est l'ange qui leur a dit.
C'est l'ange qui leur a dit. Encore une fois. Une deuxième fois.
L'ange.
C'est incroyable.
Une deuxième fois.
Et il leur a dit de s'enfuir en Égypte.
C'est ça.
Et ils sont partis en Égypte. Et
tout
l'ange,
à fait.
Il a dit... Revenez quand je vous le dirai.
Et c'est ça.
Et Hérode, quand Hérode, il a su que les rois mages se sont moqués de lui.
Parce qu'ils ne lui ont pas dit la vérité. Ils lui ont dit la vérité ou ils lui ont...
Non.
Il a
été furieux.
Ah, ça l'a rendu furieux.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il a fait de très très mal? Hérode a fait quelque chose, il a donné un ordre.
Il n'a pas été gentil. Hein. Qu'est-ce qu'il
a fait? Très mauvais.
Il a donné l'ordre de tuer tous les enfants de moins de 2 ans.
C'est très triste ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu la naissance de Jésus qui est absolument merveilleuse, mais à côté de ça, effectivement,
aussi,
on a cette histoire et cette tristesse des enfants qui ont été tués.
Qui a eu son enfant qui a été mort. Il avait moins de 2 ans.
Oui, elle s'appelait Rachel. C'est ça. Effectivement, c'est très triste.
Et au-delà de tout ça, après tout ça, Joseph et Marie, est-ce qu'ils sont revenus au bout d'un moment?
Oui.
Oui, ils sont revenus.
Non, plusieurs mois.
Oui,
plusieurs années même.
Plusieurs années.
Ils ont attendu plusieurs années avant de revenir. Et il était déjà un enfant, probablement, Jésus.
Oui. Et comment est-ce qu'ils ont su quand il devait revenir au pays d'Israël?
C'est l'ange,
encore une fois.
Encore une fois. C'était l'ange.
Troisième fois.
On peut dire que Dieu, il a bien veillé sur Joseph, Marie et Jésus. Hein. Et est-ce qu'il est revenu tout de suite? Est-ce qu'ils sont revenus tout de suite?
Non. Ils sont d'abord allés dans une petite ville parce que Joseph, il avait peur.
Il avait peur. Vous savez pourquoi est-ce qu'il avait peur? En fait, ils sont revenus parce que le roi Hérode est mort. Donc l'ange avait dit à Joseph, tu pourras revenir quand tous ceux qui sont méchants et qui veulent la mort de Jésus, eux-mêmes seront morts. Et le roi Hérode était mort à ce moment-là, donc il pouvait revenir au pays d'Israël. Mais Joseph, il a eu peur, parce qu'il y avait un nouveau roi. Et vous savez qui c'était ce nouveau roi?
Non.
C'était le fils d'Hérode. C'est pour ça que Joseph, il a eu peur. Parce qu'il s'est dit, si c'est son fils, si c'est le fils d'Hérode, peut-être qu'il est comme Hérode. Alors il s'est dit, peut-être qu'on a encore un danger de revenir dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé alors à la fin? Comment est-ce qu'ils ont su que c'était quand même... qu'ils étaient quand même en sécurité. Dieu a parlé dans un
rêve.
Dans un rêve, tout à fait. À Joseph, il lui a dit d'aller où?
De retourner à...
Dans une ville qui s'appelle Nazareth.
Nazareth. Et ils étaient protégés à Nazareth.
Oui. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il était écrit que le Messie sera appelé le Nazaréen.
Oui,
c'est ça. Voilà pour la petite reformulation faite avec les enfants. On espère que ça vous a plu.
Alors bonjour la famille Kochig qu'on a vu en vidéo, on les a en live. Bonjour. Et bonjour la famille Mutz qu'on a aussi vu en vidéo, on est ravis de vous avoir.
Alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette vidéo, c'est que les parents ne parlent pas aux enfants, mais avec les enfants. Et dans cette idée-là de la reformulation, j'ai trouvé ça génial. Vous discutez avec eux, et ça, c'est formidable. Donc, on fait un petit feedback pour lire la Bible et la comprendre. Partie 1, c'est la lecture, on lit. Partie 2, on reformule. Partie 3, on va questionner maintenant. On va questionner la Bible pour essayer de comprendre en quoi elle peut nous parler aujourd'hui. Alors, je vais d'abord m'adresser pour cette première partie à la famille Mutz. Et pour démarrer, eh bien, on va poser la question à Clara. Mais finalement, au fait, combien de générations y avait-il de David jusqu'à Jésus ?
Bah, il y en avait 14 de David à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Et en tout, ça en fait 28.
Ça fait 28 générations, c'est beaucoup ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend encore sur Joseph ? C'est qui Joseph ?
Joseph, bah, c'est un homme droit et juste qui a cru l'ange et il s'est rassuré. Alors il a pris Marie pour femme et il a envie de faire le bien.
Oui, c'est un homme juste. La Bible le dit, il a envie de faire le bien. Bravo Clara. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour Joseph d'Ivoire, Olivier ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour... Qu'est-ce que ça signifie, cette histoire de génération ?
Génération, c'est... Alors, pour l'expliquer, ça va être un peu compliqué, mais... on a tous une génération.
Oui.
On a tous un passé, un papa, un grand-père, un arrière-grand-père. Et ce que ça signifie pour Joseph, c'est que quand il a reconnu Jésus comme son fils... et que Joseph lui-même était descendant de David, il reconnaissait en fait que Jésus, eh ben, il était fils de David et fils de Dieu.
À la fois fils de David et à la fois fils de Dieu, c'est vrai. Il a été proclamé à la fois fils de Dieu et à la fois fils de David, dans toute son humanité et dans toute sa divinité. Mais qu'est-ce que Dieu a donné comme responsabilité à Joseph ?
Alors Dieu, ben déjà, il lui a donné la responsabilité de gérer la famille, parce que il avait cette responsabilité de conduire la famille, de la mener à bien, de la diriger, de la prendre en main, puisque finalement, c'est un petit peu la responsabilité qui incombe au papa dans une famille de prendre les choses en main, de protéger sa famille, mais en même temps. Joseph, c'était pas, si je peux m'exprimer comme ça en langage familier, puisqu'on est en famille, c'était pas Rambo. Joseph, il écoutait Dieu. Dieu protégeait Joseph. Dieu conduisait Joseph. Dieu a prévenu Joseph. Il lui a dit attention. Il y a Hérode là. Il veut tuer tous les petits enfants. C'est important que tu vas partir dans un autre pays, parce que là sinon Jésus, eh ben il sera plus là, il y aura plus de salut, il y aura plus rien, et finalement Joseph il a obéi, ce que Clara disait justement.
Ça c'est super intéressant ce qu'on apprend sur Joseph et sur ce que Dieu fait pour Joseph. PS, toi en tant que pasteur, dis-nous en quoi ça peut nous parler, en quoi ça peut nous concerner aujourd'hui ce qu'ils viennent de nous dire.
C'est excellent, excellent. Vous trouvez pas qu'on a eu un super retour là ? Franchement, une reformulation des questionnements, c'est juste extraordinaire. Merci. On sent que c'est travaillé quand même. Hein. On sent qu'ils ont bien bûché. Alors, effectivement, c'est là où on va aller un petit peu plus loin. On va chercher, mais comment ça peut s'appliquer à notre vie ? Et c'est là que j'aimerais vous dire que ce message ne concerne pas que les enfants ou que les parents, mais que ça concerne tout le monde. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Joseph, c'est un homme juste, un homme droit. Et pour moi, je me dis, mais est-ce que dans ce que je vis, je ne suis pas un peu comme Joseph finalement ? Et un autre regard sur Noël, ça nous pousse à comprendre que Noël, c'est un peu comme Joseph, c'est une question de foi. C'est une question de se dire, mais est-ce que je crois vraiment ce que Dieu va me dire ? J'aime bien parce que Joseph, il est comme moi, il a des peurs. Mais Dieu va le rassurer et c'est ce que Joseph essaie de faire tout de la bonne façon. Il y a une citation que j'aimerais vous dire, c'est celle-ci. Au début de l'évangile de Matthieu, il est juste selon la loi. Il décide tout d'abord de répudier Marie, mais peu à peu, grâce au songe, il devient juste selon le plan de Dieu. On comprend alors que Joseph, c'est un homme comme vous et moi qui a décidé de rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que notre première partie, on l'intitule « Dieu choisit Joseph et pourquoi pas toi ?» Dieu choisit Joseph et pourquoi on ne serait pas nous-mêmes partie prenante du plan de Dieu ? Et j'aimerais te dire à toi qui es là, tu es partie prenante du plan de Dieu. Chacun d'entre nous, enfants, adultes, Dieu a besoin de chacun d'entre nous dans son plan. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous pouvez juste me faire un petit coucou ? Excellent, super. On a appris aussi dans ce que nous dit le texte qu'il y a combien de générations ? J'ai oublié. Est-ce que tu te rappelles, Clara ? Parce que là j'ai oublié. Combien de générations ? Ouais, en tout.
Il y en a eu 28.
28 générations.
De David à Jésus.
De David à Jésus. Merci Betty pour la précision. À quoi ça nous amène qu'est-ce que ça nous amène à comprendre ? Eh bien, je crois que ça nous amène à comprendre que Noël et la venue de Jésus, c'est plus qu'un simple événement à un instant T. Ça rentre dans l'ensemble du plan divin et que Joseph est un acteur du plan divin. Noël, c'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de Jésus. Et Joseph est un acteur du plan divin. Si on change de perspective, on se rappelle que Noël, c'est un événement qui fait partie du plan de Dieu. D'ailleurs, peut-être que Joseph, lui, a écouté, mais dans la Bible, il y a un autre exemple. Vous connaissez Zacharie ? Lui, Zacharie, eh bien, il a douté. Tandis que Joseph, il a entendu la voix et il l'a mis en application. C'est pas extraordinaire ça ? Joseph qui l'écoute. Et moi, ça m'encourage dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que je fais quand j'entends la voix de Dieu qui me parle ? Alors, on a aussi dit qu'il faisait partie de la lignée. Mais attendez, c'est toi Olivier qui m'a dit, mais c'est extraordinaire de comprendre que Joseph, il est aussi fils de David. Et du coup, fils de Dieu. On remonte à des générations encore. Et là, je comprends quelque chose d'extraordinaire. C'est que Joseph, il est comme toi, comme moi. Est-ce que je ne suis pas un Joseph qui est appelé finalement à être un acteur du plan de Dieu et aussi à être un repère dans le monde dans lequel on se trouve ? Être un repère dans le monde dans lequel on est. Je ne sais pas pour vous, mais la Covid nous a amenés à être complètement bouleversés dans nos repères. Est-ce que vous aussi ? Alors un coup on est confiné, un coup on est déconfiné, un coup on va à l'école, un coup on ne va pas à l'école, on nous dit on reste. Et tous nos repères sont complètement explosés. Mais là ce qu'on apprend, c'est que Joseph, malgré les repères qui sont un petit peu complètement déplacés, parce qu'il va en Égypte, il revient, il repart, Joseph reste un repère. Joseph reste quelqu'un qui est stable, qui tient bon. Et j'ai envie de vous dire à chacun d'entre vous, nous sommes tous appelés à être des repères dans ce monde qui part dans tous les sens. Est-ce que Noël, c'est pas finalement nous rendre le rôle qui est le nôtre en tant que chrétien, d'être un repère dans le monde dans lequel on est ? Que tu sois papa ou que tu sois pas papa, on est tous des repères pour ceux qui sont autour de nous. Et si aujourd'hui, tu te disais, ok, Noël arrive, je vais être un repère pour ceux qui sont perdus. Un repère, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui amène la lumière, qui éclaire, qui dirige, qui conduit. Et c'est ça que Dieu nous apprend dans ce texte, c'est que Joseph, c'est un repère pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous faire une lecture un peu longue, mais on va voir un petit peu ce texte ensemble. Et ce texte nous dit dans 1 Thessaloniciens 2, 6 à 12. Écoutez bien. Et c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens et dit « On n'a jamais cherché à être applaudi par les hommes, pas plus par vous que par d'autres, alors même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Écoutez bien, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous tant vous nous étiez devenus chers. » Vous vous souvenez, frères, de nos travaux, de toutes les peines que nous avons prises, tout en travaillant de nos mains jour et nuit pour n'être à charge d'aucun de vous, nous vous avons annoncé la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste. Tiens, est-ce qu'on n'a pas dit que Joseph était un homme juste et irréprochable ? Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun d'entre vous. Comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Ce texte nous encourage à être des mères et des pères spirituels pour ceux qui sont autour de nous, comme Joseph l'a été pour Jésus, finalement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et le thème, c'est un autre regard sur Noël. Et si on avait ce regard de dire, durant les fêtes, je vais être un repère pour celui qui est autour de moi, comme Joseph l'a été pour Jésus. Ça ne veut pas dire être un super-héros. Betty, tu es d'accord avec moi que Joseph, il avait des failles ?
Tout à fait.
Il n'était pas Superman. D'ailleurs, même Olivier nous a dit qu'il n'était pas Rambo. Rambo, quand même. Bon, les moins de... Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment Rambo. Je suis pas... On n'a pas trop les mêmes générations. Hein. Ce n'est pas un surhomme, mais c'est un repère. Est-ce que pour Noël, on ne veut pas être un repère? Alors, pour ça, pour être un repère, eh bien, on a besoin d'être équipé. On en parlera dans notre deuxième partie. Mais avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de particulier. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Joseph maintenant qui a amené Jésus, qui s'occupait de Jésus? Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé au moment où Joseph prend Jésus pour l'amener à un endroit et ils vont prier pour lui? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quel est l'endroit dans lequel Joseph a emmené Jésus avec Marie? Dans le temple, ça vous dit quelque chose le temple? Joseph prend Jésus et avec Marie ils vont au temple pour le présenter parce que c'est la coutume. Et on va prier à ce moment-là, on va présenter, ils vont rencontrer Siméon et Anne, la prophétesse. Et ils vont rencontrer ce temps, ils vont avoir ce temps où on va prier pour Jésus. Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire encore aujourd'hui? Amen. Et nous, on a fait ce choix à l'EPI de présenter les enfants. De présenter les enfants, pourquoi? Parce qu'on considère qu'on ne va pas les baptiser. Parce que dans la Bible, il n'y a pas parlé de baptême d'enfants. Mais on va les présenter à Jésus. Et ce matin, on a la joie. Et Betty, ce n'est pas extraordinaire, ça? On a la joie d'avoir une famille.
C'est une coïncidence.
Ça tombe vraiment bien. Et tu sais quoi, Raphaël? On a ce matin, on a une famille qui voudrait qu'on présente son bébé. Est-ce que ça te dirait qu'on puisse les inviter?
Avec plaisir.
Ouais, ça serait chouette, hein, ok. Il y a Michael. Est-ce que Michael, tu es là? Michael et Nariné, vous êtes là? Et on a la joie d'avoir Maxime. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Et ce matin, on va prendre un temps pour prier pour Maxime, pour Michael et pour Nariné. Et je peux pas faire autrement que laisser Michel diriger. Michel, à la fois notre pasteur principal, mais aussi un papa, un grand-père, plusieurs reprises, et qui, je crois qu'en termes de repère, Michel, ça te parle.
Merci beaucoup, Pierre-Samuel et toute l'équipe. Nous sommes heureux de vivre ce culte en famille et heureux de présenter aujourd'hui le petit Maxime. Et nous voulons prier aussi pour les parents, pour Michael et pour Nariné, à l'instar de Jésus qui est donc venu au temple avec ses parents. Nous voulons de la même manière prier. Jésus a été baptisé lorsqu'il avait 30 ans et lorsqu'il a été adulte. Et Maxime, un jour, pourra aussi de lui-même, à un moment donné, exprimer sa foi et dire qu'il veut suivre le Christ. En attendant, nous voulons, avec l'Église, le présenter au Seigneur et demander à Dieu d'accompagner Maxime et ses parents dans l'éducation. Prions ensemble. Nous te sommes reconnaissants pour cette jeune vie que tu as accordée à Michael et à Nariné. Nous voulons te prier pour leur famille, te prier pour Maxime, que tu voudras bien accompagner. Bénis-le, garde-le, accompagne toute la famille aussi dans l'éducation, dans des moments de lecture de la parole, de reformulation, de mise en pratique aussi de ta parole. Merci de bénir leur famille, leur entourage, leurs proches, au travers de la vie de Maxime, qu'il leur apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et qu'à un moment donné aussi, il puisse se tourner vers toi personnellement et te faire confiance pour sa vie, t'accueillir comme son sauveur et son Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen. C'est important que l'Église, on s'engage. Et est-ce qu'ici, il y en a qui veulent s'engager à prier pour eux? Levez voir la main s'il y en a qui sont prêts à s'engager à prier pour eux. Ça veut juste dire prier pour eux. Ça veut dire penser à eux dans leur prière. Amen. Il y en a qui lèvent les deux mains même au fond. On va prier pour vous. On va vraiment vous soutenir alors que Dieu vous bénisse. Merci, Michael, Nariné. Et merci, Maxime. Salut.
Alors, nous avons vu dans la première partie que quand Dieu veut accomplir son plan, il choisit quelqu'un. Il a choisi Joseph pour accomplir son plan. Et il peut nous choisir aussi, nous, pour accomplir un plan pour lui. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Maintenant, deuxième partie. Alors moi, j'ai envie de poser des questions à la famille Koschig. Mais comment, on va réfléchir ensemble, comment Dieu a fait pour parler à Joseph? Alors, comment Dieu a parlé à Joseph la première fois?
Avec un ange.
Avec un ange.
que le bébé...
Stop. Est-ce que Joseph a vu l'ange?
Oui.
Il l'a vu comment? En vrai ou en rêve?
En rêve.
Il l'a vu en rêve. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, l'ange?
Que le bébé que Marie portait, c'est le bébé du Saint-Esprit.
Waouh! Et donc, il l'a rassuré?
Oui.
Ouf, il l'a rassuré. Super. Ensuite, comment Dieu a parlé à Joseph la deuxième fois?
Avec le même ange.
Encore? Et qu'est-ce qu'il lui a dit?
Il lui a dit de fuir en Égypte.
Et pourquoi?
Parce que Hérode, il voulait tuer Jésus.
Oui. Donc, il lui a donné des directives. Donc, la première fois, si les parents veulent y aller, vous avez le droit de prendre le micro. Hein. La première fois, l'ange a rassuré Joseph pour dire, n'aie pas peur, c'est bon, c'est moi qui suis dans l'affaire. Et la deuxième fois?
Et la deuxième fois, c'est pour prévenir d'un danger. Donc, effectivement, il a été là aussi la deuxième fois, mais pas pour la même raison.
Waouh. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, quand ils étaient en Égypte pendant un long moment et que Jésus est passé de bébé à enfant.
L'ange, il a dit de retourner en Israël.
L'ange leur a dit de retourner dans le pays d'Israël.
Parce que toutes les personnes qui voulaient tuer Jésus étaient mortes.
C'est ça. Waouh. Et donc là, encore une fois, la troisième fois, on voit que c'est de nouveau une directive. Donc la première fois, l'ange y rassure. La deuxième fois, il donne une directive. La troisième fois aussi. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est les trois fois, c'est tout.
Oui.
Oui, mais après, Joseph, il a réfléchi. Parce que avoir des directives de Dieu, est-ce que ça empêche de réfléchir? Non. Joseph a réfléchi et il a eu peur. Et il s'est dit, c'est le fils d'Hérode qui règne à sa place. Et peut-être qu'il lui ressemble. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit?
Dieu lui a parlé.
Oui, Dieu lui a parlé et lui a dit... Va pas à cet endroit-là, va dans une petite région, attends là-bas, c'est à Nazareth, en Galilée, va là-bas et tu seras protégé.
Pour cette dernière fois, on peut remarquer que Dieu l'a rassuré en lui donnant une directive.
Ouais.
Il avait besoin d'être rassuré par rapport à cette pensée et Dieu ne s'est pas mis en colère parce qu'il avait, il avait réfléchi, il s'est dit, il y a un danger, je ne vais peut-être pas revenir au pays d'Israël et Dieu, en venant vers lui, ne s'est pas mis en colère. Il lui a dit, mais alors, va ici, va à Nazareth. Il lui a donné une directive, mais à la fois pour le rassurer.
Moi, je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est encore une fois un dialogue que Dieu recherche avec nous. C'est ce que j'ai apprécié dans votre formulation, c'est le côté dialogue. On ne donne pas des ordres comme ça en se parlant les uns aux autres, et Dieu n'est pas comme ça avec nous. Là, il y a une histoire de dialogue, de confiance, de réflexion. Ah, mais c'est génial. Mais PS, est-ce que ça a du sens pour nous, ça, encore aujourd'hui?
Tellement. Allez. Mais ça a tellement de sens. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont déjà prêché quasiment. Hein, non? Ils sont motivés, là. C'est excellent. Eh bien, ça a énormément de sens. La deuxième partie, elle s'intitule « Dieu parle à Joseph et pourquoi pas à toi ?» Et est-ce que Dieu peut nous parler? Ah, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé, à vous, dans l'assistance? Ouais, et derrière, là, derrière vos caméras, est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Vous avez le droit de répondre dans le chat, de dire oui, si Dieu vous a déjà parlé, ou dire non, peut-être, parce que vous n'avez peut-être jamais entendu vraiment la voix de Dieu. Mais ce qu'on voit dans cet encouragement, c'est que, bah oui, il y a un plan de Dieu, il y a des directives, Dieu nous conduit, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu nous donne des directives. D'abord, il nous rassure, et nous dit, t'es pas en train de te planter, là. Et je sais pas pour vous, mais parfois, dans ma vie, quand je passe par des chemins où je dois choisir le bon choix, quand je dois aller au bon endroit, j'ai besoin d'être rassuré. Ça vous est déjà arrivé? Je parle, par exemple, à tous les jeunes qui sont en train de chercher les études et dans quelle direction on doit aller. On a besoin de sentir la façon dont Dieu nous rassure. La façon dont Dieu va mettre la paix dans notre cœur. On a besoin d'entendre que Dieu est là pour nous rassurer. Et Noël, finalement, c'est quoi? C'est nous rappeler que oui, il est venu pour être à nos côtés et nous rassurer. Jésus est venu pour être à nos côtés et nous rassurer. Tu peux dire à ton voisin, tu lui dis de loin, pas trop près, hein, mais Jésus veut te rassurer. Et c'est vrai, c'est tellement ça. Jésus nous rassure. Jésus est à notre côté. Jésus marche à nos côtés. Et puis la deuxième fois, non seulement il nous rassure, mais il nous donne des directives. Il nous dit où est-ce qu'il faut qu'on aille. Il nous encourage dans les chemins dans lesquels on doit marcher. Parfois, on ne sait pas. Je ne sais pas, Betty, ça t'est déjà arrivé de ne pas vraiment savoir où on va dans la vie?
Oui, ça m'est déjà arrivé.
Et direct, t'as consulté le GPS divin et il t'a donné une direction? Comment t'as fait?
Alors, c'est pas un distributeur automatique, mais c'est ce que vient de raconter la famille Koshig. C'est exactement ça. On peut poser nos questions à Dieu, on peut tout lui dire. On peut lui dire, j'ai peur, là, je sais pas. Et puis, il trouve plein de moyens pour nous parler ensuite.
C'est tellement ça. Effectivement, et c'est ce côté, et c'est ça que j'aime avec Jésus. C'est pas quelqu'un qui est lointain, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Et je veux que tu retiennes ça ce matin. Dieu est proche de toi. La Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Dieu est près de ceux qui s'approchent de lui. Et que ce soit enfant ou adulte, Dieu est proche de nous. Et il nous donne des occasions de dire, c'est là que tu dois marcher. Il nous rassure et puis il nous donne des directives. Et il y a, alors là, moi, il y a un élément qui me fait vraiment, qui m'interpelle vraiment dans ce que je lis. Un moment, Joseph a eu peur. Vous êtes d'accord avec moi? Joseph a eu peur. Et tu l'as vraiment dit. Et franchement, Raphaël, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit parce que Joseph a eu peur, comme nous pouvons avoir peur dans le plan de Dieu quand on ne sait pas vraiment où on marche. Joseph a eu peur et Dieu ne lui a pas reproché d'avoir peur. Et c'est ça que j'aime dans cette histoire de Joseph. C'est que malgré nos peurs, Dieu est capable de nous rassurer dans nos peurs. Ce récit, ça nous amène à voir Jésus non pas comme quelqu'un qui va nous dire « tu marches comme ça, tu fais ça », mais simplement comme un ami, quelqu'un qui développe un dialogue. C'est ça qu'on apprend à travers l'histoire de Joseph, une communication et un temps de cœur à cœur avec lui. Et je vais aller plus loin. Joseph a eu peur. Et à cause de sa peur, entre guillemets, il n'a pas été là où il devait aller au début. Il a fait un petit détour. Mais en faisant le petit détour, c'est ce qui lui a permis d'accomplir la prophétie où il sera appelé Nazaréen. Comprenez que parfois, même nos peurs, Dieu est capable de les utiliser pour nous emmener où il veut. Alors si tu as peur, comme disait Betty, on peut le dire à Dieu. On a le droit de dire à Dieu. Parfois, on a des peurs. Parfois, on ne sait pas. Et comment ça se passe? Eh bien, il suffit que tu ailles parler à Dieu et que tu lui dises. Et Dieu va te répondre. J'ai une question, je vous prends un peu au dépourvu là. Clara, je ne t'ai pas posé la question avant, mais je suis sûre que tu vas m'aider. Est-ce que des fois Dieu te parle à toi?
Oui, ça m'est déjà arrivé.
Non.
Mais pas dans le cœur, par le Saint-Esprit.
Waouh, excellent. Alors s'il y en a à qui ici qu'on dit que Dieu ne leur parle jamais, vous venez voir Clara à la fin, vous gardez un mètre de distance et vous lui demandez. D'accord? Mais c'est tellement excellent, Dieu te parle. En fait, ce n'est pas une voix qu'on entend comme je te parle directement. Ok, mais c'est excellent. Ça veut dire que c'est comme à l'intérieur de nos cœurs, quoi. C'est une paix qui s'installe ou des choses comme ça.
Oui, c'est ce que je dis.
Oh, ouais, c'est excellent. Mais Clara, franchement, t'as sûr de fou, c'est trop bien. Ça fait tellement plaisir. Et oui, Dieu nous parle. Et Dieu nous parle à tous les âges. Vous savez, quand je pense à mes enfants, souvent le soir, on prend du temps pour prier. On se pose. Et parfois, il y a des inquiétudes de la journée ou de ce qui va se passer le lendemain. Quand on a un contrôle, quand on a des évaluations. Je pense à Ben, quand t'as ton évaluation d'allemand, là, c'est compliqué. Et quand on passe le temps et qu'on se pose le soir et qu'on prie ensemble, c'est cette façon-là que Dieu nous parle. C'est là où il apaise notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux encourager tous les parents, prenez le temps le soir de prier avec vos enfants. C'est quelque chose juste d'extraordinaire. Je pense que Raphaël et Johanna vous confirmez. Hein. Et ça vous arrive des fois de prier avec vos enfants à certains moments?
Alors oui, le soir c'est le moment surtout où ils vont se calmer et ils ont beaucoup de choses à dire sur leur journée, justement sur... Avant ça, ils sont très excités au moment de manger, et quand il faut se brosser les dents, se mettre en pyjama, il y a toute une excitation. Et puis le moment où ils sont couchés, et on a bien insisté pour maintenant c'est le moment de faire dodo, il y a un petit moment calme, et Johanna elle appelle ça la minute. La minute qui dure 15 minutes, 20 minutes parfois, mais qui est importante justement parce qu'ils se mettent à raconter des choses qui s'est passé dans la journée, des choses importantes, des choses qui sont parfois lourdes pour eux, ou des joies aussi. Et on peut mettre ça après dans des temps de prière, justement. Et c'est vrai que c'est des instants qui sont forts. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
Ben finalement, c'est quelque chose qui est venu dans le quotidien. Et je pense que c'est très important pour eux. Mmh. Et puis finalement, ça l'est devenu aussi pour nous, parce que être à leur écoute, ça a été un besoin. Et je pense que c'est comme eux qui nous parlent à nous, ben, pareil avec le Seigneur. En fait, c'est dans la simplicité. Avec le Seigneur, c'est aussi dans la simplicité.
Et ce que je trouve extraordinaire dans ce que vous partagez, c'est que si vous, parents, vous prenez du temps à écouter vos enfants, est-ce que Dieu n'est pas capable de le faire pour nous? Amen. Est-ce que Dieu n'est pas capable à un moment de se dire, ok, je vais m'arrêter, je vais me poser avec toi ce soir parce que ça va pas bien, dans tes doutes, tes inquiétudes. Peut-être tu es venu ce soir avec ce matin avec une inquiétude, un doute. Si tu te poses, Dieu va prendre du temps avec toi. J'en suis sûr et certain parce qu'on le vit. Et Dieu nous rassure et nous donne des directives. C'est ce qu'on retient de cette partie. Alors, on appelle Joseph un petit peu ce rêveur. Parce que tu le disais tout à l'heure, effectivement, il reçoit beaucoup de rêves, etc. Ça me fait penser à un autre rêveur dans la Bible qui porte le même prénom. Ça vous dit quelqu'un ? Quelque chose ? Ce fameux Joseph. Et le point commun en plus, c'est que Joseph, dans l'Ancien Testament, va aussi ramener sa famille en Égypte. Il y a un point commun entre les deux Joseph, ces deux rêveurs qui entendent parler de Dieu, qui entendent la voix de Dieu. Et moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que vous pensez que Joseph aurait pu imaginer ce qui allait se passer ? Joseph savait-il tout ce qui allait se passer ? Ben, je crois que oui, parce que Dieu lui a parlé. Même s'il n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, il n'avait pas tous les détails du plan. C'est comme quand tu construis une maison. Comme tu construis une maison en Lego. Ben, des fois, tu as les pièces, puis tu ne les as pas toutes, et tu dois aller en chercher d'autres dans une autre caisse. D'accord, Clara ?
Oui.
Et ben c'est de la même façon, on est en train de monter la maison, on n'a pas toutes les pièces, mais Dieu, lui, c'est l'architecte. Et j'aimerais qu'on puisse se poser un instant pour écouter la voix de Dieu à travers un chant qui nous a été interprété par la famille Ebersol, qui sont là avec nous ce matin, je les vois là-bas, je suis content que vous soyez là ce matin, ça fait tellement plaisir. Et ce chant nous dit « Marie, savais-tu ? Marie, savais-tu que celui qui était dans ton sein, dans ton ventre, serait le grand Je suis ?» Je vous propose qu'à travers cette vidéo, on puisse prendre aussi un temps pour réfléchir. Pas simplement la regarder, mais dire, mais est-ce que je suis prêt à entendre la voix de Dieu ce matin ? Me parler. Et oui, Dieu va te parler. On écoute cette vidéo, on la regarde ensemble. C'est parti.
Did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save us sons and daughters? Did you know that your baby boy would come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you.
Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels crawl? When you kiss your little baby, then you kiss the face of God.
Oh, Mary, did you know?
Deaf will hear, the dead will live again, the lame will lead, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know
that your baby boy is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am.
Merci beaucoup à la famille Ebersold. Et donc Christine et Kevin sont là et font partie de notre école du dimanche qui s'appelle Épisode. Encore un grand bravo pour cette magnifique interprétation de ce chant. Vraiment, merci beaucoup. On est bénis. Donc, on revient à notre texte. Alors, on a vu en premier que quand Dieu veut accomplir son plan, il choisit quelqu'un. Mais pourquoi pas toi aussi? Puis, en deuxième, on a vu, quand Dieu veut accomplir son plan, eh bien, il parle. Alors, pas toujours avec un ange, mais dans notre cœur. Mais pourquoi pas à toi? Et maintenant, la troisième partie. On va voir ce qu'on va trouver. Moi, j'aimerais réfléchir avec d'abord Olivier et ensuite les parents Raphaël et Johanna. Finalement, dans cette histoire, moi je trouve que Joseph a accepté vraiment beaucoup de choses. Moi je ne sais pas si moi dans ma vie je suis prête à accepter autant de chamboulements. Alors on va reformuler tout ça. D'y voir Olivier, au début de l'histoire, qu'est-ce que Joseph a accepté?
Déjà, il a accepté quand même d'avoir une mauvaise réputation, si je peux m'exprimer comme ça, parce que sa femme est enceinte et bon, heureusement qu'il y a eu l'ange qui lui a dit que c'est par le Saint-Esprit, parce que sinon, c'était pas très populaire d'être pas marié. Et ouais, et puis d'avoir sa fiancée enceinte. Aujourd'hui, c'est plus commun, ça choquerait moins, mais à l'époque, c'était très, je ne sais pas si je peux dire grave, mais en tout cas, c'était pas populaire.
Entièrement vrai, on n'y pense pas souvent. Et en plus, le texte nous dit, c'est Ben qui l'a lu dans le récit, il n'eut pas de relation conjugale avec sa femme. Qu'est-ce qu'il a accepté là?
Ben là, il a quand même accepté d'être patient, hein, parce que bon, il était fiancé, donc il a pris quand même pour femme une fois que l'ange. Donc ça, je pense qu'ils se sont mariés, ça veut dire ça. Et il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait accouché de Jésus. Donc c'est formidable, c'est un challenge, je pense. Parce que voilà.
Oui, et puis il aurait pu être jaloux parce que bon, lui, l'ange lui a apparu trois fois et une quatrième fois, on dit, le texte dit Dieu lui a dit. Mais à Marie, l'ange a apparu, en vrai, elle l'a vu, c'était pas juste un songe, donc il aurait pu être jaloux. Qu'est-ce qu'il a encore accepté?
Ben, je trouve que Joseph a fait part de beaucoup d'humilité et il a, je pense, compris que Dieu avait un plan au travers de sa femme Marie. Il a eu, si je puis dire, le second rôle, mais en tout cas, il l'a accepté et il a pris sa place là où elle était.
C'est vrai, ça c'est pas facile, mais je crois qu'il a accepté ce second rôle parce qu'il a compris qu'il y avait plus que sa vie et son accomplissement à lui, il y avait quelque chose qui le dépassait, et pour ça il l'a accepté. Et dernière question, finalement, ils ont quand même déménagé plusieurs fois dans cette histoire. Un déménagement, c'est une perte de repères. C'est pas rien, en plus, changer de pays.
Oui, exactement. Dieu leur a donné la directive de partir, de déménager dans un autre pays. Donc, c'était pas juste déménager dans le village d'à côté, voilà, pour être tranquille. Non, il lui a demandé de partir dans un autre pays. Qui plus est, dans un pays qui ne glorifie pas Dieu. En Égypte, l'Égypte et Israël ont une histoire assez particulière. Donc ça ne devait pas être évident d'accepter d'aller vivre dans ce pays, et pas seulement pendant quelques jours, mais pendant des années. Donc ça a été un sacré challenge aussi pour lui.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a accepté vraiment de perdre beaucoup de repères et un grand contrôle sur sa vie. PS, ça nous parle, ça, nous, aujourd'hui, accepter de perdre nos repères?
Ça nous parle tellement. Le titre de cette partie, c'est « Joseph accepte de perdre pour gagner ». Pourquoi pas toi? Est-ce que parfois ça nous est arrivé de perdre des choses, mais pour gagner autre chose? Je crois que quand on rentre dans le plan de Dieu, quand on marche dans la direction de Dieu, parfois on est obligé de perdre des choses. Je me souviens quand on a changé d'église et on a déménagé, on est passé d'une ville à l'autre, c'était pas évident, j'ai perdu mes repères, j'ai perdu des amis, mais je savais que je marchais là où Dieu m'avait encouragé à marcher. Et si on était parfois obligé de perdre certaines choses pour que Jésus soit mis à l'honneur? Et comme tu le disais, Johanna, tout à fait bien, et si on acceptait de perdre pour que Jésus soit à la première place et nous qu'on ait le second rôle?
C'est ça finalement. Et accepter de perdre, c'est accepter que peut-être notre conjoint même a un appel plus visible que le nôtre. C'est accepter les bizarreries de Dieu, si on peut dire ça comme ça. C'est peut-être renoncer à notre confort. Et à tous les papas, les mamans, les familles et tous ceux qui sont là, parfois c'est dur d'accepter de perdre des choses. Mais quand tu le fais parce que Dieu te l'a encouragé à le faire, tu sais que tu ne perds pas pour rien, mais tu vas gagner autre chose. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Joseph a développé cette intimité avec Dieu. Et en plus d'être à la bonne place. Accepter que le rôle de Jésus, le rôle principal soit celui de Jésus, finalement, c'est ça, Noël. Un autre regard sur Noël, c'est comprendre que, en fait, au lieu que l'attention soit tournée sur nous, l'attention est tournée sur Jésus. Et c'est ça qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui. C'est bien tout ce qu'on vit, mais on veut tous mettre en lumière qui ? Jésus-Christ. C'est ça, c'est Jésus. Et nous, on est ses serviteurs. Et quand Clara, elle parle, on parle ensemble, eh bien, on est simplement là à mettre la lumière sur Jésus quand Dieu nous parle. Joseph a peut-être perdu beaucoup de choses. Il a peut-être accepté de perdre. Et ça, c'est une marque de foi. Mais de l'autre côté, il a gagné la confiance en Dieu. Il a compris que le plan de Dieu, il était en marche, même si on ne comprend pas tout. Et cette relation, elle est juste extraordinaire. Et, entre nous, des fois, ça nous arrive de ne pas tout comprendre les éléments du plan de Dieu. Hein ? Vrai ou faux ? J'en vois qui font comme ça. On ne comprend pas forcément tout. Mais quand tu acceptes de perdre, et te dire, mais c'est toi qui vas diriger ma vie, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Joseph a fait quoi ? Il a pris le volant, comme si tu étais en train de conduire une voiture, et au lieu que ce soit lui qui le conduise, il s'est mis côté passager et il a donné le volant à Dieu. Tu es d'accord avec ça, Clara ?
Ouais.
Ouais, c'est pas mal ça, hein ?
Oui.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Je sais pas pour vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi quand j'étais petit, quand on partait en voyage avec mon papa, je sais qu'il me regarde, alors je l'ai salué en même temps, j'avais tellement confiance dans mon papa qu'une fois qu'on se mettait dans la voiture, blam, on s'endormait tous. Parce qu'il y avait une confiance absolue qui savait où on allait. D'ailleurs, souvent, je lui ai posé les questions, mais papa, comment tu fais pour connaître la route, parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque, pour connaître la route qui nous amenait de là à là, lui, il la connaissait par cœur. Dans Paris, il se débrouillait dans tous les sens, mais ma mère était là, elle fermait les yeux. C'était excellent. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où tu fais confiance, en fait, à celui qui conduit ta vie. Et c'est ce que Joseph a fait. Joseph a décidé à un moment de dire, au lieu que je sois le conducteur, je suis le passager dans la voiture. Et il y a cette confiance qui s'établit. Et je suis sûr que plusieurs fois, tes enfants, ils s'endorment dans la voiture. Ah oui. Ah oui. Ah, oui. Ouais. Chez vous aussi, ça vous arrive des fois que les enfants...
Oui.
Ouais. Ok. Pourquoi ? Parce qu'on fait confiance dans celui qui est en train de conduire. Dieu n'est pas celui qui va t'amener à un mauvais endroit, il va t'amener au bon endroit. Et c'est ça qu'on est en train de gagner. En fait, quand on accepte de perdre... C'est pour gagner cette profondeur et cette relation avec Dieu. Peut-être Dieu est en train de te parler en te disant il y a des choses que tu dois accepter de perdre. Mais rassure-toi, Dieu t'amène vraiment là où il veut que tu ailles. N'aie pas peur. Être un acteur du plan divin, c'est de se dire ok, j'accepte de perdre pour gagner et que Jésus soit glorifié. Ça me fait penser à une dernière histoire, promis, après j'arrête. Est-ce que vous vous souvenez de l'entrée de Jésus dans Jérusalem ? Est-ce qu'il y en a à qui ça parle ? Alors, je vous raconte l'histoire. Maïra, tu te souviens ? En fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Jésus, tout le monde l'accueille dans Jérusalem. Et alors qu'il rentre dans Jérusalem, il va monter sur un animal. Allez, je t'aide. T'as une idée, toi, déjà ? Mais dis pas tout de suite, on va essayer de le faire deviner. Maïra, cet animal a des grandes oreilles.
Un âne.
Oh purée, t'as été trop vite ! Je voulais essayer de faire le... Mais bon, c'était ça que tu voulais dire, quand
oui.
Même. Ouais, ok. En fait, c'est extraordinaire de voir que Jésus rentre sur un âne. Et j'aimerais vous poser la question ce matin. Est-ce que vous seriez prêt à être l'âne de Jésus ? En gros, ton seul et unique but, c'est d'amener Jésus dans Jérusalem et de le porter. Qu'il soit glorifié, lui, le seul Jésus, dans chaque domaine de ta vie. Réfléchis à ça cette semaine. Est-ce que tu es prêt à être l'âne de Jésus ? Bon, j'arrête là sur l'image de l'âne, hein, on ne va pas aller trop loin non plus. Hein ? Mais comprenons que Joseph a accepté d'avoir le second rôle pour que Jésus soit glorifié, mais il n'a pas perdu au change. Cette relation, cette intimité, cette foi, cette confiance, tout ça, il a gagné ça. Parce que simplement, il a accepté de perdre pour gagner. C'est pas extraordinaire ça, Betty ?
C'est extraordinaire.
Franchement, moi, ça m'encourage.
C'est encourageant.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas culpabilisant, c'est encourageant. C'est pas quelque chose qui est difficile, c'est encourageant. Je suis vraiment d'accord avec toi. D'ailleurs, j'aimerais conclure avec ce texte qui nous dit, regardez, Éphésiens 3.20. Regardez bien ce texte, Éphésiens 3.20. Ce texte nous dit, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, Et derrière le nous, tu peux mettre ton prénom, enfant, adulte, parent, grand-parent, oncle, tante, peu importe, à celui qui agit en nous. Il peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. On peut dire ensemble toutes les générations ? Alors, je recommence. On peut dire ensemble toutes les générations ?
Toutes les générations.
Du plus grand jusqu'au plus petit. Cette troisième partie nous invite à comprendre que parfois on perd, mais on gagne dans notre intimité et dans notre profondeur avec Dieu. J'aimerais qu'on fasse un temps de pause et on va écouter un chant ensemble. Et ce chant va nous amener à réfléchir, à nous poser. C'est encore Eric qui nous met à disposition ce chant. Vraiment, merci Eric. Et ce chant s'appelle Souffle. Et je ne vais pas parler plus. Et je voudrais que durant ce chant, vous puissiez juste réfléchir à ce qu'on vient de dire. On regarde ensemble le chant d'Eric Koldé, Souffle.
Que les ruines reprennent le vie, les infimes soient guéris.
J'aimerais qu'on puisse prendre un temps juste pour prier. Seigneur, on est devant toi dans ce moment. Et on a compris trois choses ensemble. Que un, tu as choisi Joseph et tu nous choisis aussi pour ton plan. On comprend aussi que tu as parlé à Joseph et tu nous parles à nous aussi. Et on comprend que Joseph a accepté de perdre des choses pour gagner plus avec toi et qu'on a besoin parfois de perdre pour gagner. Et ma prière, c'est pour chacun d'entre nous ce matin, que tu puisses nous encourager, nous aider à tenir bon dans cette période de Noël. Seigneur, je te prie pour chacun, pour chaque partie peut-être qui nous a touchés d'une façon ou d'une autre. Je te prie vraiment de nous bénir et de nous faire du bien. Merci pour ce temps. Merci parce que cette histoire de Joseph, elle est juste extraordinaire, tellement nous apporte de choses. Et Seigneur, nous voulons encore ne jamais oublier que cette proximité que tu avais avec Joseph, tu la veux avec nous. Et tu as ce cœur à cœur avec nous et c'est encore ce moment qu'on vit en famille. Merci pour ce temps. Merci encore pour tes paroles et tes encouragements. Je te bénis d'être au milieu de nous encore ce matin. Amen. Amen. Waouh, vous avez vu tout ce qu'on a sorti de ce texte? Est-ce que vous croyez que c'est possible chez vous de faire la même chose? Moi, je suis sûr et je suis persuadé que c'est possible. Mais avant qu'on revienne sur la méthodologie, je voudrais juste demander à Johanna et Raphaël, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, cette reformulation? Comment vous avez vécu ce moment? Et voilà, dites-nous tout pour que peut-être d'autres parents qui se disent « Mais moi, c'est pas possible avec mes enfants parce qu'ils sont trop comme ça, trop comme ci », peut-être vous les encourager aussi.
C'est une très bonne question parce que je pense que ça a été un challenge. En tout cas, effectivement, on s'est retrouvé avec ce texte. Alors, c'est vrai que les enfants, ils rentrent de l'école, ils sont fatigués. Le soir, ils n'ont plus forcément la force. Mais en fait, le fait d'avoir eu un même texte sur une assez longue période, ça nous a vraiment permis de le retravailler à plusieurs reprises. Et finalement, on voit qu'à chaque fois qu'on l'a retravaillé, il y a autre chose qui sortait. La première fois, c'était le côté dramatique, si je ne me trompe pas. Ils ont tout de suite parlé de la notion des enfants en fait, qui sont morts. Alors qu'en fait, nous, le premier truc qui nous venait, c'était vraiment la naissance de Jésus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, retravailler un texte, ça permettait vraiment de voir que l'enfant ne perçoit pas les mêmes choses que nous en tant qu'adultes. Ça a vraiment fait ressortir des choses différentes à chaque fois.
C'est quand même encourageant de voir que tout n'est pas sorti comme ça en un instant. C'est ça que vous nous dites. C'est pas toujours facile de faire la reformulation. Et du coup, ça prend du temps malgré tout.
Oui, il faut prendre en compte plusieurs choses. Et donc, il y a ce que Johanna vient de dire sur le fait de répéter plusieurs fois une histoire permet aux enfants de comprendre des choses nouvelles, aussi qu'ils n'ont pas forcément compris la première fois. Là, en l'occurrence, ils avaient compris, ils s'étaient fixés sur la mort des enfants parce que c'est peut-être un aspect plus fort pour eux que tous les sens un peu cachés qu'on pourrait comprendre nous très facilement. Mais c'est aussi la disposition des enfants par rapport à leur comportement, l'heure à laquelle on va leur parler, le temps dans la journée. Je vais prendre l'exemple de Zach, par exemple. La première fois où on a lu l'histoire et on a essayé de faire la vidéo, il bougeait dans tous les sens, il ne voulait rien écouter, il ne voulait pas parler, il ne voulait pas répondre aux questions, etc. Du coup, on s'est dit, bon, c'est peine perdue, on ne pourra rien faire avec Zach, ce n'est pas possible. Et finalement, on s'est dit, allez, hop, non. Le lendemain, on a refait un essai, à un autre moment. Et vous l'avez vu dans la vidéo, il était, moi, il répondait à toutes les questions. Et on était, après, en voyant le résultat, on était stupéfait parce qu'il avait bien retenu l'histoire, parce qu'il était motivé pour répondre. Donc, il faut prendre en compte aussi qu'il y a des différents moments. Il faut retenter aussi pour voir si l'enfant est mieux disposé une prochaine fois à répondre aux questions et à comprendre l'histoire.
Écoute, c'est vraiment un super conseil à tous les parents qui nous regardent. Surtout, ne vous formalisez pas si on ne peut pas aller jusqu'au bout de la démarche à l'instant T, en fait. Ça prend du temps. On travaille ensemble et ça, c'est un super feedback que vous nous faites parce que ça nous permet aussi de déculpabiliser. Parfois, on se dit « Oh, j'ai pas eu le temps de lire la Bible, etc. » Il faut déculpabiliser, il y a des temps qui sont propices. Je ne suis pas un spécialiste d'éducation, mais je sais qu'il y en a ici qui le sont, qui disent qu'il y a des temps pour les enfants. Et on ne peut pas forcément forcer, et surtout, il ne faut pas forcer. Mais c'est vraiment prendre le temps avec eux.
Il ne faut pas se fixer aussi sur la première idée qu'on a. Bon, il a pas écouté, il a rien retenu, bon tant pis, on ne va pas réessayer. Non, il faut continuer.
C'est excellent. Et d'ailleurs, ça me pousse un peu en disant, mais moi, quand je lis la Bible, parfois, je ne suis pas forcément disposé. Il y a des fois, il y a peut-être besoin de se dire, ok, je vais me poser. Et je vais prendre du temps à part, je vais bloquer, je vais rentrer dans ma chambre, je vais fermer, et je vais prendre du temps pour lire la Bible.
Alors, je vais revenir vers Emma et Olivier. Emma qui nous a rejoint, ça fait plaisir, c'est chouette. D'habitude, on les voit derrière les micros ou la guitare. Là, on les a en tant que papa et maman, c'est super chouette. Alors vous, franchement, j'ai surkiffé. Je sais pas, est-ce que vous avez aimé le moment où la petite puce, c'est Joy qui se balade avec son bidon comme ça, et après, elle va s'allonger sur le canapé. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment plu. Et du coup, c'est une autre manière, en fait, de faire reformuler l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Ouais, en fait... J'ai réalisé, nos enfants, on est dans une famille chrétienne, on va dire, on les a éduqués, on leur a lu la Bible depuis qu'ils sont tout petits. Jonas, Goliath, tout ça, ils connaissent à fond. Même quand le soir, on va leur lire la Bible, ah ouais, mais ça, papa, on connaît. Donc en fait, je me suis dit, mais comment je peux les accrocher? Et on a, enfin moi j'ai développé, c'est même presque, comment dire, un sketch. Je me mets dans la peau des gens et je fais un film et je les mets sur le canapé. Et ils sont en train de regarder un film, moi qui joue tout seul. D'un côté je suis Pharaon, ensuite je suis Moïse, ensuite voilà. Et ils sont tout de suite captés et ils en redemandent. En fait ça n'en finit plus, il faut que moi-même je dise stop. On refera la suite le lendemain. Alors, c'est pas toujours évident parce que voilà, mais en même temps, moi, ça me laisse imaginer qu'est-ce que vivait le personnage. En fait, c'est aussi un apprentissage pour moi.
Alors, ça, c'est juste excellent. Je me permets juste de te couper là-dessus. Ouais. Ça veut dire que quand toi, tu racontes l'histoire à tes enfants, toi aussi, tu vis quelque chose en fait.
Ouais.
Ça, c'est excellent. Franchement, c'est un principe qu'il faut absolument retenir. Tu as l'impression que quand tu parles à tes enfants et que tu racontes une histoire, il n'y a que eux qui vivent quelque chose, alors qu'en réalité, tous les deux, les enfants et les parents, on grandit ensemble. C'est tellement excellent. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
Non, c'était... Bon, je dis Moïse parce qu'en fait, on est dans Moïse actuellement et que, voilà. Mais c'est vrai que j'ai réalisé que ça met du relief et c'est plus une image qu'ils ont... ils connaissent presque la phrase par cœur à force qu'on relise toujours les mêmes choses. Parce que, voilà, les histoires pour les enfants, elles reviennent. C'est toujours David, Goliath, Jonas, enfin, et voilà. Et vraiment, j'ai vu que d'en faire un sketch, ça les anime. C'est un dessin animé, quoi, presque. Alors, c'est pas toujours évident et parfois, j'ai pas toujours l'énergie. Mais quand j'ai pas l'énergie, simplement, je leur dis que, ben, on va lire, et puis voilà. Et si j'ai pas l'énergie du tout, je crois que je me mets pas non plus de pression. Je crois qu'on se met pas de pression. On dit, ben, on va laisser tomber pour ce soir.
Oui, et en fait, ils en redemandent, c'est vrai, ça, c'est, ils sont à fond dedans et puis ils veulent plus que le sketch. Mais c'est pas grave, il y a des moments où après on lit tout simplement. Ils aiment aussi la phase où on lit et voilà. Mais il faut l'histoire de la Bible avant de se coucher parce qu'ils aiment beaucoup. Mais on a aussi vécu, comme vous, Johanna et Raph, des moments où... ils sont fermés, ou on veut autre chose. Après l'école, c'est un peu difficile. Bon, du coup, on fait light ou bien on chante. On chante aussi beaucoup à la maison. Et du coup, en fait, ils retiennent plein de choses. Et après, ben, c'est comme ça que ça rentre, en fait.
Excellent. Un grand merci à vos deux familles d'avoir été avec nous pour ce court feedback. J'aurais voulu prendre plus de temps à discuter, mais le temps nous est compté également pour aujourd'hui. Et on a passé déjà pas mal de temps ensemble. Et je sais qu'il y a des enfants, pour eux, c'est long. J'aimerais juste à tous, comme ça, je ne m'adresse pas à une catégorie, à tous, vous donner un challenge pour cette semaine. Vous êtes prêts à relever le challenge? Ouais. Je voudrais que cette semaine, enfin, on voudrait avec l'équipe, que cette semaine, vous puissiez choisir un texte, que vous puissiez le lire, puis le reformuler, puis le questionner, puis en chercher les applications. Est-ce que c'est possible pour ça, pour vous, avec vos enfants, ou même si vous êtes tout seul? Faites ça cette semaine, et je vous assure que de la même façon que Dieu a parlé à Joseph, Dieu vous parlera à travers un texte, parce que la Bible, c'est un livre vivant qui nous parle encore aujourd'hui. Si vous êtes OK avec ça, dites-moi un gros amen.
Amen.
Amen, excellent. OK, ça va, vous êtes toujours là? Excellent. On arrive à la fin, et... Surtout, restez bien attentifs parce que j'ai une dernière surprise. On a une toute dernière surprise qui va vous donner l'envie de rester encore un petit peu. Quelques annonces simplement avant cette dernière surprise. On aura le culte du 27 décembre la semaine prochaine. S'il vous plaît, inscrivez-vous avant samedi midi. C'est très complexe en termes d'organisation. Inscrivez-vous avant samedi midi. De toute façon, après, la plateforme est fermée. C'est normal parce qu'on a besoin de s'organiser. Vous pouvez également toujours nous contacter sur contact@epi-strasbourg.eu ou au téléphone portable 06 28 13 58 51. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit message, on sera vraiment heureux de pouvoir passer du temps ensemble. J'aimerais, avant cette toute dernière surprise, juste laisser la place à Michel pour le mot de la fin. Et une fois que vous allez entendre ce qui va arriver après, on se met debout ensemble et puis on chante de tout notre cœur.
J'aimerais tout simplement remercier tous les acteurs de ce culte ce matin, les grands et les petits, les familles. Ça a été pour nous l'occasion de découvrir quelques familles, de voir un petit peu comment ça se passe. Et ce culte de famille ce matin, finalement, il est à l'image de l'épi. Modeste, simple, mais authentique, vrai et sincère. Et je crois que tout a été dit autour de ce regard de Joseph. Et nous voulons vraiment prendre avec nous peut-être l'un une partie, l'autre une autre. En tout cas, vivre ce temps de Noël avec simplicité, avec sincérité, mais aussi authenticité. Et on pense tout particulièrement dans cette période à ceux et celles qui sont en souffrance, ceux qui seront seuls, ceux qui sont malades, ceux qui vivent des situations difficiles et douloureuses. Et on pense aussi tout particulièrement à ceux qui sont victimes de la guerre, directement, indirectement. On pense à nos frères et sœurs arméniens, azéris. On pense à eux. Certains ne fêteront pas Noël par solidarité pour les familles qui sont en souffrance. Alors, une grosse pensée à vous tous et on prie pour chacun d'entre vous. D'ailleurs, on peut peut-être simplement le faire, juste un petit temps. Dans ce temps de pause ce matin, posons-nous, s'il vous plaît, pensons à ceux qui sont en souffrance. Nous te remercions, Seigneur, pour ce culte de famille, l'exemple du regard de Joseph. Tu l'as choisi, tu lui as parlé, et il s'est mis en action, il t'a obéi, il t'a fait confiance. Merci pour son exemple. Merci pour tout ce vécu dans les familles. Nous voulons penser à ceux qui seront sans leur famille ces jours-ci, qui seront seuls, qui sont en souffrance, qui sont découragés, ceux qui sont malades. Nous pensons à ceux et celles qui sont victimes de la guerre, de toutes ses conséquences. Seigneur, merci d'être présent tout particulièrement auprès de chacun et de chacune. Merci de mettre la paix dans le cœur des uns et des autres, et d'accompagner chacun. Merci parce que tu n'oublies personne, et que nous sommes tous sous ton regard, et que tu nous vois, et que tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Alors on vous souhaite un bon temps de Noël aux uns et aux autres.
Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Si vous êtes chez vous, à vous mettre aussi debout. On va chanter ensemble à travers ce chant. C'est la surprise de la famille Mutz. C'est le dernier, mais on va pouvoir le chanter ensemble. Et je vous invite à chanter tout votre cœur. Et c'est parti. Narek, tu peux envoyer la vidéo. À bientôt à tous les internautes.